Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour Élodie.
Bonjour Jean-Jacques.
Je vais vous demander de vous présenter, Élodie.
Alors, je m'appelle Élodie, j'ai 38 ans, je suis une jeune femme dans la vie active, je travaille dans le notariat, plus particulièrement dans l'immobilier.
Vous êtes quelqu'un qui avait une belle vie, puis au bout de 10 ans de cette vie, vous avez voulu vous transformer.
Oui, effectivement, j'ai commencé à travailler jeune, 20, 21 ans. Pendant 10 ans de loisirs, de voyages.
En couple ?
En couple, effectivement. À partager des choses incroyables. Et au bout de 10 ans, quelque chose qui commence à s'installer.
C'est venu comment ?
Eh bien, une amie, mon amie la plus proche, qui a un petit peu le même parcours de vie que moi, qui a été maman un petit peu sur le tard, m'a dit « Écoute, c'est arrivé par hasard, j'étais pas faite pour ça et au final, je me demande comment j'aurais conçu ma vie différemment et comment j'aurais pu être heureuse sans enfant. »
Vous étiez avec un conjoint qui avait un enfant ?
Oui. Mon conjoint est plus âgé et a déjà une grande fille de plus de 20 ans.
Donc vous vous êtes dit, il me faut, j'ai envie d'un enfant, et cette envie a été partagée ?
Oui, et voilà, mon ami m'a vraiment mis ça en tête en me disant, mais oui, mais en fait, aujourd'hui, je vis pour moi. Mais en fait, tout ça pourquoi ? Et oui, cette envie a été partagée. Ça a été un vrai questionnement quand même pour monsieur, parce que se replonger dans une maternité à l'âge de 50 ans, c'est pas facile. Moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai compris après. Mais effectivement, c'est une vraie, un vrai partage de couple et de création de famille. Oui.
Et vous êtes passé par une technique pour avoir un enfant. Ça a été un combat.
Effectivement, et bien en fait, pendant 10 ans, il n'y a pas eu de même s'il y a eu des petits oublis, il n'y a pas eu de suivi ou de grossesse. Et en fait, on s'est quand même posé des questions très rapidement. On a été pris en charge rapidement aussi par des connaissances qui étaient dans le milieu, et on a été très bien orientés tout de suite.
Et alors, quelle a été la décision ?
Et bien en fait. Suite à l'orientation vers des médecins spécialisés juste pour faire des analyses, hein, on ne savait pas du tout s'il y avait quoi que ce soit. C'était vraiment par rapport à l'âge de Pierre-Olivier de pouvoir avoir une prise en charge rapide. Si jamais il y avait quelque chose, il s'est avéré effectivement que pour nous, en tout cas, on avait, si on voulait que ça aille vite, besoin d'une assistance. Et c'est là où on s'est lancé dans ce combat et cette vie en parenthèse médicale. Une fécondation in vitro, pour nous, ça a été tout de suite une orientation là-dessus. Même s'il y a d'autres techniques moins invasives, effectivement, ça a été notre orientation immédiate.
Donc ça nécessite un gros engagement ?
Oui. De mon avis, oui, c'est-à-dire des allers-retours plusieurs fois par semaine. On était suivis à Lyon, donc voilà, c'est conjuguer le travail et le suivi médical, le côté psychologique aussi, parce qu'on est plein d'espoir et on retombe vite aussi après avec les résultats. Donc voilà, ça a été plusieurs années lancées dans cette aventure.
Oui, alors la fécondation in vitro, en deux mots, en quoi ça consiste ?
Eh bien, en fait, c'est donner la vie en laboratoire. En tout cas, la créer. Et ensuite, le reste continue de manière plus naturelle dans le corps de la femme. Mais au départ, c'est la création, effectivement, en laboratoire. Alors, du coup, des injections, des suivis avec des prises de sang régulières, des hormones, plusieurs fois par semaine, en fait, des suivis échographiques, etc. Et ensuite, une réimplantation. Et là, on voit si ça prend ou si ça prend pas. Mais ça, on le sait, on le sait au bout de quelques jours. Si ça prend, ben, il faut avoir un suivi sur les taux pendant plusieurs semaines. Et c'est là où c'est au jour le jour.
C'est au jour le jour. Et donc, dans ce jour le jour, ça a été une grande aventure pour vous, qui n'a pas été simple, puisque je crois qu'il a fallu plusieurs tentatives. Et notamment, la première a été une désillusion.
Ben oui, la première fois, pleine d'espoir, on croit que ça va marcher, forcément, c'est incroyable. Ça y est, il y a un embryon, un transfert. Voilà, je suis enceinte, c'est clair. Et puis au bout de, je ne sais plus, ça doit être une semaine, je crois, la prise de sang. Donc c'est très long, une semaine d'attente. Et là, prise de sang, on attend de recevoir le courrier parce qu'il faut que ce soit vraiment sûr. Donc c'est fait, c'est pas un petit test de grossesse acheté en pharmacie. Et bien là, négatif. Donc vraiment la douche froide.
Vous attendiez vraiment à ce que ce soit positif?
Ah oui, pour moi, j'étais clairement enceinte, hein. Et puis j'avais des symptômes, mais c'est là où on se rend compte que le corps... voilà, pour moi, j'étais enceinte et j'avais tout qui allait avec. Et le côté de recevoir négatif, c'était vraiment pour moi pas possible. Et ben voilà, réellement si. Et c'est là où on comprend que ça va pas être simple.
Et parce qu'en France, j'ai cru comprendre que c'était plus aléatoire, les résultats de la fécondation in vitro.
Voilà, donc... Quand un négatif arrive, je commence à me plonger vraiment dans des recherches et je me rends compte qu'en France, eh bien, malheureusement, on a 22-25% de chance maximum d'avoir une réussite à chaque FIV.
Pourquoi ?
Contrairement à l'étranger où on est sur du plus de 60%. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire des recherches sur les embryons. Donc, on nous implante des embryons qui ne sont de toute façon pas viables, sauf qu'on ne peut pas le rechercher. Donc, voilà pourquoi il y a autant de pertes, à savoir que ça coûte très cher, en tout cas. C'est 5000 euros à peu près. Alors, en tout cas, c'était ça il y a quelques années par FIV. À l'étranger, c'est pas remboursé. Mais en France, on a le droit maintenant à 4 FIV maximum. Donc, il y a aussi cette échéance-là qui nous met de la pression en se disant 20% de chance, 4 FIV, ça va être costaud.
Donc vous avez cet enseignement, ce premier enseignement, enfin c'est un enseignement néanmoins, et puis la deuxième fois, une erreur administrative qui vous fait croire que c'est bon.
Et ben voilà, deuxième FIV, donc on est convoqué, si tout est ok, telle date, telle heure, on arrive, on se présente. Et là, je vois la gynécologue qui fait des gros yeux et qui comprend pas, qui nous convoque. Ils sont deux à nous convoquer. Et la secrétaire a oublié de nous appeler pour nous prévenir qu'il y avait zéro embryon qui avait pris sur cette FIV-là. Donc là, c'est pire que tout, puisque pour nous, il y avait un transfert ce jour-là. On allait continuer une grossesse et voilà, rien du tout. Donc, deuxième échec.
La colère ?
Intérieurement, oui, c'est vraiment j'en veux à mon corps, je me dis ça ne marchera jamais, c'est pas possible.
La colère par rapport à l'administration aussi ?
Oui, après, toute erreur est humaine, mais c'est vrai que les conséquences derrière sont psychologiquement très compliquées parce que il y a eu pendant un mois tout un protocole très lourd à supporter et on arrive pour quelque chose de magnifique et en fait, c'est pire que tout, il n'y a rien.
Le combat continue et la troisième fois.
Troisième FIV, donc j'y croyais pas vraiment, mais là, contre toute attente, ça marche. Comme ça n'avait pas pris les autres fois, elle m'en transfère deux. Et on n'y croyait pas, mais deux embryons, effectivement, sont là, des jumeaux. Et la grossesse démarre avec un suivi positif sur les semaines qui s'enchaînent.
Donc tout est merveilleux ?
Tout est merveilleux, mais quand même rapidement des difficultés, une torsion de l'ovaire, une opération enceinte, la possibilité, enfin malheureusement, de perdre des jumeaux. Tout se passe bien au final. Et un jour, au bout de 5 mois à peu près, des pertes de sang, j'arrive en consultation et là, je comprends, sans que le gynécologue parle, qu'il va y avoir un gros, gros problème et que tout est compromis. En fait, on va m'hospitaliser avec quand même un petit espoir, puisque dans ces cas-là, il y a toujours un espoir. Mais malheureusement, eh bien, je vais accouché du premier jumeau, le deuxième étant toujours en vie. Ça va être des jours très compliqués, mais s'ensuit une infection qui peut être grave pour moi aussi. Donc, on prend la décision de tout arrêter et s'ensuit un accouchement voilà, très douloureux.
Donc, c'est des moments qui sont très difficiles. Les deux enfants, vous les avez nommés ?
Oui, oui, ils sont nommés Oscar et Charlotte, enregistrés à l'état civil. Voilà, on a pu recueillir les cendres, etc. Ouais. Parce qu'à cet âge-là, à plus de 5 mois, il faut savoir que c'est quasiment le seuil de prise en charge et de viabilité. Et que, voilà, on était à la limite. Donc, ce sont vraiment des bébés, tout petits.
Tout petits. Mais n'empêche que pour vous, ils sont vivants. C'est vos étoiles. Et ils vous ont donné l'envie et le courage de puiser la force pour une nouvelle expérience.
Ben voilà, va commencer une étape de reconstruction intérieure et quand même l'envie d'aller vraiment au bout en me disant, ben voilà, ils sont là, ils veillent sur nous. Et encore aujourd'hui, j'y pense régulièrement. Et voilà, ils vont me pousser en fait à continuer et à me dire, eh bien, ils vont avoir un frère ou une sœur.
Et donc, c'est une phase très difficile pour vous. Vous lâchez un peu, vous faites la fête, et ça repart. Ça repart un peu n'importe comment d'ailleurs.
Et ben voilà, de toute façon, voilà, c'est soit on se laisse tomber, soit on se prend en main. De mon côté, j'ai toujours été comme ça, rebondir et positiver. Voilà, quelques mois où de toute façon, il va falloir laisser la nature reprendre un petit peu son cours. C'est de toute façon les préconisations du corps médical. Et ensuite, une nouvelle FIV qui sera positive, alors même que effectivement, je ne m'étais absolument pas concentrée sur ce protocole-là. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, des injections au cours d'un mariage, pas conservées de manière optimale, et ça a été positif. Très rapidement, je vais à nouveau avoir, au bout de 2 mois, un hématome rétroplacentaire, un cerclage suite à la perte de mes jumeaux, et puis un alitement total pendant 6 mois avec la possibilité de me lever 10 minutes par jour. Donc très, très dur à vivre aussi. Et puis là, je vais commencer à m'orienter vers la sophrologie pendant ma grossesse pour relativiser et à survivre entre guillemets à tout ça jusqu'au bout.
Donc oui, parce que ça demande aussi une certaine décontraction pour que l'enfant puisse être arrivé dans de bonnes conditions. Donc vous avez besoin aussi de vous décharger de tout ce stress.
Ben, ma pathologie, effectivement, qui était pour la troisième en tout cas une pathologie extrêmement rare, une grossesse sur 1000, eh bien, il ne fallait absolument pas que j'ai...
Grossesse sur 1000, c'est-à-dire ?
Et oui, c'est une pathologie qui, où l'enfant est raccordé sur les membranes au lieu d'être raccordé sur le placenta. Donc, il faut éviter à tout prix les contractions. Voilà, je peux perdre mon enfant à tout moment en 10 minutes.
Donc, vous êtes dans un grand combat, une grande solitude, peut-on dire ?
Oui, une solitude intérieure en disant que tout repose sur mes épaules. Et c'est là où, effectivement, il a fallu que je sorte de ma tête cette charge. Et c'est là où la sophrologie m'a aidée. Mais vraiment, vraiment comme un miracle, j'y croyais et ça m'a tenue jusqu'au bout.
Et quand le miracle arrive ?
Et quand le miracle arrive, quelque chose d'incroyable... et ensuite une arrivée sur une inconnue aussi parce que j'avais voulu volontairement ne pas du tout me préparer à ça pour me préparer aussi à un drame éventuel comme j'avais déjà connu et de l'inconnu d'un bébé sur tous les niveaux du sommeil jusqu'à la prise en charge totale de l'hygiène d'un bébé, etc. Voilà, c'était une découverte.
Et alors maintenant que toutes ces inconnues sont connues, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Eh ben, je retiens que si c'était à refaire, je serais beaucoup plus décontractée, mais parce que maintenant j'ai la connaissance. Mais en tout cas, voilà, une vision des choses maintenant où on profite de chaque instant, on connaît la valeur de la vie, quelque chose qui peut s'arrêter et à tout instant. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et du coup, vraiment, tous les points négatifs se retrouvent en points, pour moi, en tout cas, positifs.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux auditeurs ?
Ben en tout cas, beaucoup d'espoir pour toutes les mamans qui sont dans mon cas ou qui sont dans ces protocoles-là. Il ne faut rien lâcher parce que je suis la preuve que même malgré des choses rares, graves, tout peut arriver et un miracle peut arriver et c'est quelque chose d'incroyable à vivre.
Amis auditeurs, ne lâchez rien et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Élodie.